Mais bien cher frère, je vous donne ce serment un petit peu tard aujourd'hui samedi, parce que nous avons eu la rentrée des nouveaux à la Villeneuve, de postulants, de novices devrait-on dire plutôt, et puis un autre jeune qui est avec nous, un autre qui est avec nous pour l'année. Monseigneur Williamson disait aux frères au mois de juillet dernier qu'ils seraient heureux dans la voie qu'ils ont choisie. Je crois qu'il n'y a pas que les frères qui sont heureux et il est difficile, je puis en témoigner, d'être plus heureux, en tout cas, que je le suis. Cette joie de transmettre à des jeunes qui aiment le bon Dieu, de leur transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu, de leur donner cet enthousiasme que je cherche à vous communiquer, à vous aussi, mes bien chers frères. Et puis demain, je célèbre le baptême d'un garçon de 12 ans, à qui je viens d'expliquer toutes les cérémonies du baptême, ce qui m'a mis un petit peu en retard. Et je vous fais partager cette joie. Et je le confie à vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'épître d'aujourd'hui fait immédiatement suite à celle de dimanche dernier. Dimanche dernier, Saint Paul nous a parlé de la vie intérieure opposée à la vie de la chair, c'est-à-dire à la vie matérielle. Il nous a montré les fruits de la vie intérieure qui sont les fruits de l'esprit. Il nous a expliqué que la vie intérieure est une vie de notre esprit guidée et inspirée par le Saint-Esprit. Dans le passage que l'Église nous donne en ce 15e dimanche après la Pentecôte, Saint Paul nous continue et nous montre que la vie intérieure doit inspirer tout notre comportement chrétien. Et cela est très important. Notre action a une âme. On pourrait dire, on a dit, que la vie intérieure était oisive et qu'elle ne servait à rien. Tout d'abord, les choses qui ne servent à rien peuvent avoir, malgré tout, énormément de valeur. Par exemple, un diamant sur une bague au doigt d'une femme, ça ne sert à rien. Et pourtant, je pense que la femme apprécie que son mari le lui ait donné. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous à qui les moyens aient offert, à qui les maris aient eu les moyens d'offrir un diamant. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous à qui les maris ont eu les moyens d'offrir beaucoup mieux, justement par les fruits de l'esprit. Des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Donc, on aime Dieu pour aimer Dieu. On n'aime pas Dieu à cause de ce que les effets extérieurs. On vit avec Dieu pour vivre avec Dieu. On ne vit pas avec Dieu à cause des effets extérieurs. Mais, étant donné que le bon Dieu s'occupe de tout l'extérieur, il est normal qu'un homme spirituel s'occupe comme le fait Dieu de l'extérieur. Il a un comportement dans le monde. Et ce comportement est inspiré par un esprit et doit même être inspiré par le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre, je me rappelle, il y avait des amis de Saint Jean Bosco, les jeunes dont je m'occupe, qui faisaient un mur devant l'oratoire de la Sainte Vierge. Alors lorsque je raconte cela, les gens me disent, oh, c'est bien! Et je répondais, non, c'est pas bien. Alors les gens m'insistaient, mais enfin quand même, ça n'est pas mal. Je dis non, ça n'est pas mal non plus, ça n'est rien. Tout dépend dans quel esprit ils le font. Vous avez celui qui peut faire ce mur par amour de la Sainte Vierge, qui peut le faire parce que ce n'est pas toujours très facile en esprit de pénitence, qui peut le faire pour plaire à Monsieur l'abbé, de même que vous avez celui qui ne fait pas le mur par paresse, mais vous avez également celui qui ne fait pas le mur pour, par délicatesse, pour laisser son ami, à son ami, la joie de faire ce mur, puisque cela lui plaît. Et puis lui, bien, portera la brouette, ce qui n'est pas très valorisant. Mais vous voyez, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit donne une vie à toutes nos actions. S'il est bon, cet état d'esprit, notre vie sera bonne. S'il est mauvais, les meilleures choses seront corrompues. Cet état d'esprit est ce que nous devons chercher dans nos actions, chercher à transmettre dans nos actions extérieures. Dont Chautard, dans son livre « L'âme de tout apostolat », qui est un petit chef-d'œuvre, dont Chautard dit « Parce que la vie intérieure engendre la vie intérieure, ses résultats dans les âmes sont profonds et durables. » Et dans notre pauvre monde, qui justement n'a plus de vie intérieure, n'a presque plus de vie du tout, notre vie intérieure va produire des résultats profonds et durables. Ne croyez pas que nous nous retirions dans une espèce d'île déserte, protégée du monde et en union avec Dieu, ça c'est une totale illusion. Ça a certainement été l'illusion de beaucoup de traditionalistes qui ont cru que, peut-être nous-mêmes les premiers, qui ont cru que grâce à Mgr Lefebvre, à la Fraternité Saint-Pilis, nous restaurions un monde dans lequel, au pied duquel les vagues du monde mauvais allaient se briser et nous serions dans une citadelle sans trouble et sans difficulté. Une citadelle pleine de joie, oui, mais une citadelle sans combat, non. Alors, Saint Paul nous indique quel doit être notre comportement à nous d'hommes spirituels. Et l'homme spirituel qui juge de tout et qui n'est jugé par personne, d'où notre certitude. Nous sommes spirituels parce que nous nous laissons guider par l'Évangile, et l'Évangile, et nous qui portons l'Évangile, jugeons de tout et nous sommes jugés par personne, dans la mesure où nous sommes spirituels. Et nous qui sommes spirituels, qui devons vivre de l'esprit, Saint Paul nous indique quel doit être notre comportement par rapport à nos inférieurs, par rapport à nos égaux, par rapport à nos supérieurs. Par rapport à nos inférieurs. Je ne parle pas seulement des évêques qui ont des inférieurs ou des parents qui ont des inférieurs, on parle d'eux en tout premier, ou des prêtres qui ont des inférieurs. On parle d'eux en tout premier, mais également de tout homme spirituel qui est nécessairement supérieur à celui qui n'est pas spirituel, qui est encore dans la boue du monde. Alors, si nous sommes spirituels par rapport à nos inférieurs, nous devons nous occuper de celui qui a été empêtré. Le terme latin est « preoccupatus », je ne sais pas comment c'est traduit dans vos missels, mais moi je traduirais « empêtré ». Empêtré dans le mal, dans un délit, dans le péché. Vous avez beaucoup de gens qui ont été empêtrés. Pourquoi s'occuper de ceux qui sont empêtrés? Parce que cela veut dire que Saint Paul ne nous demande pas de nous occuper de ceux qui sont tombés volontairement. Celui qui est empêtré a avancé, et puis il y avait des filets, il s'est pris les pieds dedans, il tire, le nœud se serre, il ne sait plus comment faire. Non pas qu'il ne soit jamais permis de s'occuper de celui qui tombe volontairement dans le péché en sachant ce qu'il fait, mais c'est très difficile à convertir. Il est courant de dire que libéral ne peut pas se convertir. Le libéral est quelqu'un qui n'est pas empêtré, il a choisi de ne plus réfléchir, de ne plus penser, de se crever les yeux de l'esprit. Et il a choisi de ne jamais chercher la vérité, mais de chercher toujours une position confortable à la fois pour sa conscience et pour la chair. Alors celui-ci, je ne vous conseille pas de vous en occuper. Il n'est pas empêtré, il est perdu. Certainement, nous nous rendons compte que beaucoup de gens, et c'est très triste, qui sont proches de nous apparemment, ont fait de tels choix qu'il sera bien difficile de les en sortir. Par contre, nous avons autour de nous beaucoup de gens qui sont empêtrés dans le péché. Et alors, nous qui sommes spirituels, dit saint Paul, alors instruisons-le en esprit de douceur, en nous rappelant ce que nous sommes, afin de ne pas être tentés. Nous allons l'instruire. Pourquoi l'instruire? Parce que, comme il s'agit de vie intérieure, il s'agit de lumière en tout premier. Je vous ai dit que la vie intérieure était la vie de l'esprit, de notre esprit vivifié par le Saint-Esprit, et c'est ce que nous devons transmettre aux autres. Nous transmettons une vie intérieure. Nous ne cherchons pas à faire des robots qui réagissent comme nous le souhaitons ou comme il le faudrait. Nous cherchons à faire des hommes qui vivent de cette vie. Et donc nous transmettons la vie intérieure. Et pour transmettre la vie intérieure, une des expressions assez courantes dans l'Écriture sainte, c'est la lumière, l'illumination. Je vous ai souvent parlé d'enthousiasme. C'est un petit peu, ce sont des notions voisines. Nous communiquons une lumière qui nous a saisi, une joie qui nous a saisi. Et en nous rappelant nous-mêmes, parce que nous le faisons avec douceur, très important. Nous le faisons avec douceur, nous le faisons comme des supérieurs qui pourraient bien être à une place bien pire que celle à laquelle ils sont, car il n'y a pas de péché dans lequel l'homme puisse tomber si celui qui a fait l'homme vient à l'abandonner. C'est-à-dire que grâce à Dieu, nous sommes dans la vérité, mais si Dieu ne nous avait pas protégés, nous serions peut-être bien pires que ceux auxquels nous voulons faire du bien. Et voilà pourquoi nous faisons du bien avec miséricorde, avec douceur, avec patience, avec bonté. En ce qui concerne nos égaux, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Nous avançons ensemble sur la voie du salut et du royaume de Dieu. Les époux, par exemple, portent les fardeaux l'un de l'autre. J'allais dire, c'est presque pour ça qu'ils sont mariés. Porter les fardeaux l'un de l'autre, et les fardeaux des enfants, bien entendu, mais qui sont sur leurs épaules et ils se soulagent mutuellement. Mais il n'y a pas que les époux. C'est une marque de l'amitié de porter les fardeaux les uns des autres. Et nous sommes les amis de tous les chrétiens, de tous les bons chrétiens, et nous les soulageons, nous les aidons. C'est pour cela que je vous encourage une nouvelle fois vivement à établir, à fonder des groupes de prière. Des groupes de prière, c'était ce que voulait le Padre Pio, avant même qu'on soit obligé de quitter la messe et les églises pour cause de modernisme. À l'époque, Padre Pio s'adressait à des gens qui pouvaient avoir encore la messe, et pourtant il leur demandait de fonder des groupes de prière pour se soutenir dans la prière, se soutenir dans la vie chrétienne. Et à plus forte raison, maintenant que la crise nous rend la situation plus facile si nous vivons de l'esprit, plus difficile si nous vivons de la chair. Le père Barcelone, qui était un missionnaire, il est mort à plus de 90 ans, que j'ai connu quand j'étais plus jeune, et puis à Saint-Nicolas-du-Chardonnay ensuite. Le père Barcelone à Saint-Nicolas-du-Chardonnay avait dit aux fidèles « Faites des groupes de prière ». Et comme le padre Pio, parce qu'il avait connu la situation des catholiques en Chine, et il savait très bien que l'Europe était également fragile, et il les avertissait, parce que lorsque la difficulté nous tombe dessus, si le groupe de prière est déjà formé, la difficulté sera facile à porter. Par contre, si la difficulté arrive et qu'à ce moment-là, on veut fonder un groupe de prière, cela devient beaucoup plus difficile. C'est encore plus vrai pour les groupes de prière du dimanche, pour sanctifier le dimanche. Donc, nous portons les fardeaux les uns des autres. Et puis, enfin, envers les supérieurs, nous communiquons en toutes sortes de biens. Il ne s'agit évidemment pas, en tout premier, de payer le denier du culte. Il s'agit d'une collaboration. Cela est également important à rappeler. On l'a peut-être beaucoup oublié. Le Concile a voulu le rappeler. Et il a eu raison de vouloir le rappeler, le Concile Vatican II, mais il l'a rappelé comme un moderniste. Alors du coup, ça a fait plus de mal que de bien. Je veux dire la place des laïcs dans l'Église. Nous sommes tous dans la même et unique barque qui est la barque de l'Église, la barque de Dieu, la barque du salut. Et bien sûr, il y a des timoniers, il y a des responsables de la manœuvre et des maîtres d'équipage, mais malgré tout, même le plus simple matelot participe à la manœuvre et aide les autres, travaille avec les autres et cherche le bien commun, c'est-à-dire le salut avec les autres. Alors, et même avec les supérieurs. Alors, vraiment, je fais appel à vous, mes bien chers frères, pour que vous prolongiez notre action sacerdotale, que vous prolongiez notre ministère, que vous... Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Les parents sont des laïcs qui ont une mission officielle dans l'Église. Ils sont les seuls à avoir une mission officielle, sacramentelle, de cette manière. Mais tous les autres doivent eux aussi participer à l'œuvre de l'Église. Et donc prolonger mon action, notre action, celle de nos confrères, celle de Mgr Williamson et Mgr Faure, cherchez à convertir, cherchez à soutenir, cherchez à éclairer, distribuer la bonne presse, faites connaître les bonnes lectures, encourager, conseiller, ce sont toutes les œuvres de miséricorde. Et puis, 17 minutes, mes enfants, puisqu'il y a des enfants qui m'écoutent, une maman qui m'a amené son fils, qui est novice chez nous, m'a dit que la famille écoutait mon sermon tous les dimanches. Alors, mes chers enfants, je pense bien à vous, et votre frère va bien, et il est heureux. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'était un séminariste en Afrique, un petit séminariste. Il était à l'école et il se préparait à devenir prêtre. Et puis il eut une grave maladie et il fallut le renvoyer dans son village. Et il était tout désolé de ne pouvoir devenir prêtre, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la volonté de Dieu. Donc notre petit séminariste était tout désolé et il s'est dit, avant de mourir, parce qu'il savait qu'il allait mourir, avant de mourir, je ne peux pas convertir les gens comme prêtres, mais je suis dans mon village, il était dans un village païen, je vais essayer de convertir mon village. Alors un jour, raconte deux missionnaires, ils entendent un chant, Ils se mettent à la fenêtre, c'est un chant puissant, et qui s'approche. Alors, qu'est-ce que cela peut bien être? Une manifestation? Non. Et alors, il distingue un chant chrétien, et un peu après, il voit arriver toute une foule. C'était le village entier du petit séminariste que le séminariste avait converti. Alors, il s'était mis sur les marchés, et puis il avait dit, il faut penser à votre âme, il faut penser au salut, vous ne vivrez pas toujours, alors il faut acquérir l'éternité. Au début, on l'avait chassé, on l'avait même flagellé, je crois. On l'avait battu. Et puis, lui ne s'était pas démonté, il était revenu. Il était revenu sur la place du marché, sur le village. Vous m'avez battu, mais ça ne me fait rien. En tout cas, moi, je vous dis, il faut penser à votre salut, il faut penser à Dieu, le bon Dieu qui nous aime. Alors, les gens ont été tellement impressionnés par sa conviction qu'ils lui ont demandé d'expliquer le catéchisme. Et notre petit séminariste a fait le catéchisme à tout le village. Il l'a même fait aux vieux. Tout le monde. Il n'en manquait pas un. Et alors, quand tout le monde a été converti, il leur a dit, ben, il faut aller voir les pères et demander le baptême. Alors, les pères reçoivent tout le village. On prévient évidemment l'évêque. L'évêque était Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Lefebvre dit, c'est une occasion très importante, et puis il faut marquer la déférence envers les vieux du village, envers le chef du village. Il était normal que par déférence, ce soit l'évêque qui se dérange. Et Monseigneur commence les cérémonies du baptême, et puis quand on arrive à l'ablution baptismale, c'est-à-dire le sacrement lui-même, alors il appelle le petit séminariste, et puis il lui dit, c'est toi qui as converti le village, alors c'est toi qui vas faire le baptême, et puis moi, je vais t'assister. Alors, grand archevêque était l'enfant de cœur qui assistait le petit séminariste pour baptiser. L'histoire ne raconte pas si le petit séminariste a baptisé tout le monde ou simplement quelques-uns. Et toujours est-il qu'il est parti au ciel avec une couronne de gloire extraordinaire, tout le village qui lui devait le salut. Et quelle joie, vous imaginez, mes enfants, quelle joie ça a dû être quand les vieux sont morts à leur tour, après le petit séminariste qui est mort quelques mois après, et les vieux ont retrouvé le petit séminariste là-haut près du bon Dieu, et ils lui ont dit merci, merci de nous avoir convertis. Et ils sont allés voir la Sainte Vierge, merci très Sainte Vierge de nous avoir envoyé ce petit séminariste. Alors je vous laisse, mes chers enfants, faites-en votre profit. Sachez être vous aussi des apôtres, avec une grande vie intérieure, avec un grand amour du bon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.